Bien bonjour, je remplace un peu au pied levé Nathalie Jacquemin qui est malade pour l'instant et donc c'est un peu au pied levé que je la remplace. Je travaille ici à l'Université Libre de Bruxelles et je m'occupe des travaux pratiques des étudiants en journalisme, la partie radio, et je suis volontaire aussi à Radio Campus depuis de bien nombreuses années, et le mouvement des radios libres en Belgique a débuté il y a très très longtemps, puisqu'en 1968, ici à Bruxelles, on a connu la première émission de radio libre, et c'était le mai 68 bruxellois. Par la suite, les radios ont démarré dans la partie francophone du pays par des radios de combat, qui étaient en résumé radio au noir à Couvain. Il y avait un projet de construction d'un barrage de retenue d'eau à Couvain et les associations d'habitants qui avaient pratiquement épuisé tous les recours ont décidé d'utiliser la radio comme un outil. Mais la radio était utilisée comme un outil d'intervention très rapide en disant voilà, nous sommes l'association Intel et à tel moment, vous pouvez. On se met rendez-vous à tel endroit et on va casser les baraquements des machines qui établissent des carottes de sondage. Donc, début des radios libres dans la partie francophone du pays, des radios de combat. Par la suite, très rapidement, octobre 1978, 78 pour nos cousins français, la première radio d'animation sur le site de Louvain-la-Neuve, sur le site de l'UCL à Louvain-la-Neuve, qui se définit d'emblée, dès le départ, comme étant une radio d'animation. Louvain-la-Neuve est la première ville construite en Belgique depuis l'époque de Charlemagne. Et donc, Louvain-la-Neuve résulte d'un conflit entre les étudiants flamands et les étudiants francophones. Les étudiants francophones de l'Université catholique de Louvain, à l'époque, avaient leur cours à Leuven, Louvain. Et suite à ces dissensions, les autorités francophones, les autorités de l'UCL ont décidé de construire leur université à Louvain-la-Neuve, à côté d'Outigny. Et ce site qui démarrait en 78 était un peu mort. Et donc, des étudiants ont décidé de lancer une radio, mais sur le principe de la radio d'animation, et qui était assez intéressante. Et donc, ce fut là la pierre angulaire du début, pratiquement, des radios libres. Je vous ai parlé de Radio Noir à Couvain, radio de combat, puis Radio Louvain-la-Neuve, et puis un peu dans le même temps, une autre radio de combat qui était à Andenne. Il y a eu un référendum pour ou contre l'installation d'une usine de traitement et d'enrichissement de l'uranium, puisqu'on était à Tihange. Et nous sommes dans une époque, 78, où les radios libres apparaissent en même temps que le mouvement antinucléaire, avec l'émergence de mouvements libertaires. Et à peu de temps après Louvain-la-Neuve, on voit apparaître des premières radios. Mais toujours est-il qu'il y a eu un événement assez particulier en octobre 78 à Louvain-la-Neuve. Les émissions à l'époque étaient enregistrées sur cassette. Et les gens partaient avec leur émetteur, une petite antenne bricolée. Tout ça se faisait dans la clandestinité. Et à la troisième émission enregistrée de Radio Louvain-la-Neuve, on entend la cassette qui s'interrompt, le micro qui s'allume. Bonjour, on voudrait vous dire qu'en arrivant ici, on a vu des camionnettes des services postaux, de la RTT à l'époque. Et chaussez vos baskets, soyez prêts, on ne sait jamais. Et puis la cassette repart et deux minutes après, de nouveau, interruption du micro. Voilà, maintenant il faut intervenir. On se trouve à la tour Trucmuche. Et en 10 minutes, 3000 personnes sont venues. À peu près 3000 personnes. Et donc la camionnette Gognot des forces de l'ordre est repartie, ainsi que les agents en civil de la BSR à l'époque. Et là, ça a été vraiment le début, je pense, d'une. Tout d'un coup, les autorités publiques se sont aperçues qu'il y avait une volonté de briser le monopole de service public de la RTB à l'époque. Et les radios ont commencé à émerger. On a eu des radios à Bruxelles, on a eu des radios un petit peu partout. Et le mouvement est parti ainsi. Alors en 78, le début des radios libres, les radios de combat et puis les radios d'animation. Les radios d'animation qui étaient fort prisées parce que je pense que aussi si les émetteurs ont pu être acquis à l'époque, c'est que la technologie était beaucoup moins coûteuse. Et donc, l'apparition du transistor, la grande distribution, le phénomène des radios libres en Italie ont permis de ramener du matériel en Belgique et de commencer les premières radios. En 80-82, Conseil des radios locales, ça, c'est les autorités qui mettent ça sur pied. Et puis en 86, un premier plan de fréquence. Je résume beaucoup. Hein, ici, il y a d'autres spécialistes qui pourraient intervenir plus précisément sur des éléments historiques. Mais en 86, premier plan de fréquence. Et en 87, est créé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un organe d'avis. En 1991, est créé le Fonds d'aide à la création radiophonique. En 1994, on décide que les recettes publicitaires pourraient financer les radios communautaires. Et c'est à partir de 1994 que le Fonds d'aide à la création radiophonique, qui existe toujours aujourd'hui, à partir de 1994, ce fonds est créé. En 1997-1998, le CSA devient organe d'avis avec un collège d'autorisation et de contrôle. Et puis enfin, en 2008, donc plus de 20 ans après le début des radios libres, un premier plan de fréquence qui a permis aux radios qui disparaissaient les unes après les autres. Il faut savoir que bon nombre de petites radios associatives sont apparues dans les années, fin des années 70, début des années 80, et qu'un certain essoufflement arrive aussi quand on tiens, une petite radio de village, une petite radio de ville, ben, il y a un certain essoufflement et puis les radios ont commencé à péricliter les unes après les autres et on a vu que ces radios se faisaient souvent changer un peu de statut et donc on a vu des petites radios disparaître et puis des grosses radios qui reprenaient en quelque sorte les fréquences des petites radios. Je vous résume très fort ici, mais du coup, pendant plus de 20 ans, on arrive à une espèce de renforcement des réseaux commerciaux de radio et des petites radios qui avaient des vocations à dire ben voilà, nous on va faire de la radio sans publicité, on va se concentrer sur le développement local, sur l'éducation permanente, et bien ces radios disparaissent les unes après les autres. Et en 2008, heureusement, le plan de fréquence apparaît et les radios qui avaient de l'eau jusque-là, proche de la bouche, ont pu sortir le menton hors de l'eau. Et enfin, on peut respirer, maintenant ça va, la tête est dégagée, les épaules sont dégagées. Mais il y a encore beaucoup de travail, je pense, à faire, énormément, d'autant que, vous l'avez vu tout à l'heure dans les chiffres, nous sommes à une vingtaine de radios associatives et d'expression reconnues comme telles et bénéficiant d'une subvention à ce titre, ici en communauté française, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne rit pas, donc. Pour une population de 4 millions d'habitants. En Flandre, nous avons deux radios, qui sont encore des radios associatives, hein, Radio Scorpio à Leuven, Radio Scorpio à Leuven et Radio Centrale à Anvers, absolument, qui est une grande radio historique à Anvers, issue du mouvement coopératif, libertaire, là aussi. Donc une vingtaine de radios pour la partie francophone de la Belgique qui mènent des missions, heureusement, qui poursuivent un peu leur mission. Et je pense que les acteurs essayent de se retrouver aujourd'hui. Et en 2010, je pense qu'il y a 2 ans, c'est ça Fred, en 2010 on lance la CRAX, qui est la coordination des radios associatives et d'expression. Il nous a fallu à un moment se fédérer pour dire, on va essayer de se mettre ensemble. Et sur la vingtaine, 20 radios reconnues, ou 21, je peux dire maintenant, on a 12 radios qui sont membres de la CRAX. Et nous tentons une certaine coordination entre ces radios associatives. Mais on le fait de manière volontaire, on le fait de manière bénévole, et sans avoir vraiment de financement à ce titre. Donc on aimerait pouvoir développer des moyens qui nous permettent de mieux coordonner les attentes des radios associatives dans la partie francophone du pays. Par exemple, des formations à la prise de parole, par exemple, comment traiter l'information, par exemple, comment mieux réaliser son programme, la mise en onde, etc. Pour la plupart, ce sont toutes des radios qui sont évidemment des milieux d'expression, mais également des lieux de cohésion sociale. Lieu de cohésion sociale parce que les gens se connaissent. Et si le thème de cette assemblée, de ce colloque, c'est « Par les gens pour les gens », et bien là, dans nos radios associatives, ici dans la partie francophone du pays, on retrouve réellement cela. Et on aura des exemples demain avec Radio J600 notamment, qui est une historique. Alors, je ne voudrais pas être trop long, parce que je pourrais vous parler des heures, des radios et de secteurs qui me passionnent beaucoup. Vous dire que, ben voilà, nos radios associatives reçoivent un budget du fonds d'aide à la création radio de 20 000 euros par an. À cela, sont attachées une série de contraintes, une espèce de promesse de réalisation, assez contraignante d'ailleurs, et qui sont plutôt bénéfiques parce que ça nous permet de suivre un peu le travail qu'on fait dans chaque radio et de voir comment on peut évoluer et d'avoir un organe de régulation à côté de nous. Moi, je trouve ça plutôt favorable, même si des fois on se dit, mon Dieu, c'est un gros dossier à monter, il faut répondre à une série énorme de questions, mais voilà, je trouve que c'est un bon suivi. D'autant que le CSA, et c'est pas de la flatterie ici, organise régulièrement des consultations et des rencontres, et qu'une à deux fois par an, le CSA est à l'initiative de rencontres. Et donc ça, ça permet aux acteurs de radio de se voir, et aux gens de la CRACS, la coordination des radios associatives et d'expression, de ne pas nécessairement monter l'événement pour elles. Donc là, il y a une espèce de joint venture, comme on dit, hein, voilà. Vous dire que, bah oui, j'étais un peu estomaqué tout à l'heure en entendant les chiffres suisses, hein, les radios associatives ont 260 000 euros par an, et je pense qu'on peut être très sévère avec ces radios, mais enfin bon, voilà, le contexte est certainement différent. Je pense aussi qu'on est arrivé dans la partie francophone du pays en 2008 à une espèce d'accord qui disait, ok, les radios qui veulent faire de la publicité vont financer les radios qui s'engagent à ne pas faire de publicité. Et de manière à pouvoir faire émerger trois acteurs, c'est un peu ma vision en tout cas du paysage aujourd'hui, c'est d'avoir trois acteurs de radio dans le paysage de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un acteur de service public, la RTBF, je vais y revenir, des radios privées, des réseaux privés, mais aussi l'émergence de radios locales et de radios associatives. À mon sens, il faut trois acteurs dans le paysage radiophonique. À la fois des acteurs qui soient des privés et des commerciaux, parce qu'illustre aujourd'hui le paysage radiophonique, une très forte concurrence entre réseaux privés et réseaux publics. Donc je pense qu'il faut un troisième acteur fort qui vient un peu déstabiliser ces deux premiers acteurs et qui offre autre chose. Si on laisse les deux acteurs dominants poursuivre leur lutte, bah, je veux dire, on va avoir une espèce de discours unique en radio, avec une seule forme de discours, quelle qu'il soit politique, économique, philosophique, ou religieux, quelquefois. Donc il faut de la diversité, et les radios associatives ont cette opportunité de pouvoir de représenter véritablement la diversité. Je vous illustrais là, je voulais revenir un bref instant sur la RTBF. Il faut savoir que la RTBF en Belgique est un service public qui fabrique 5 programmes de radio, plus les décrochages locaux sur Vivacité le matin, et 3 chaînes de télévision, et que, sauf erreur de ma part, je tiens cette source de Jean-Jacques Jespers, donc j'imagine qu'il a vérifié ses sources, le budget, la location publique de la RTBF, pour 5 chaînes de radio, décrochage, 3 chaînes de télévision, c'est le budget que reçoit France Inter, une chaîne de radio. Ça vous donne une idée, mais bon, 4 millions de personnes, 60 millions de personnes. Il y a des différences quand même, c'est comme les 20 000 euros, 260 000 euros par an, voilà. Il faut voir ce qui est comparable aussi. Mais ce sont des chiffres assez, assez étonnants. Vous dire aussi que la CRACS, ben, c'est créer du lien pour pouvoir échanger à la fois des idées, des gens. Il y a beaucoup d'idées qui émergent dans la CRACS, on a beaucoup de souhaits pour l'instant, mais c'est une petite association qui est arrivée à un moment où le plan de fréquence de 2008 s'est mis en route, d'une part, et où avant 2008, nous avions un principal acteur dans le paysage radiophonique ici, dans la partie francophone du pays, avec un acteur très important, qui est un acteur européen. On parlait tout à l'heure de YouTube, des médias qui émergent sur la technologie IP, Internet. Il y avait un acteur industriel extrêmement important qui est Bertelsmann. Et Bertelsmann, à mon sens, rapide calcul, contrôlait plus de 60% du parc des fréquences dans la partie francophone du pays avant le plan de 2008. Aujourd'hui, on est à moins de 40%. Donc ça, c'est intéressant. Le régulateur, il est là aussi pour mener un peu son action. Voilà. J'arrive à la conclusion. Les radios associatives peuvent présenter des solutions, notamment en situation de crise, et on verra ça peut-être demain sur les radios en Asie, et peut-être que ce modèle est peut-être développée chez nous. La baladodiffusion crée une énorme concurrence, je trouve, aujourd'hui aux radios associatives. Donc comment vont-elles pouvoir se développer sur des outils Internet et revenir sur un modèle aussi qui nous tient fort à cœur, pas que moi, c'est que nous sommes attachés au modèle broadcast. Le modèle broadcast, c'est un émetteur vers de multiples récepteurs anonymes. Et on voit apparaître aujourd'hui un acteur qui émerge et qui est celui du modèle IP, modèle Internet Protocol. Et là, tout le monde est traçable. Vous devez payer pour envoyer vos flux sur Internet, mais vous devez payer pour recevoir aussi. Le modèle broadcast, il est gratuit. Donc voilà, modèle IP, modèle broadcast, nous sommes fort attentifs à cela, y compris dans les développements de la radio numérique dans l'avenir. Et je terminerai par une citation d'un grand monsieur de radio qui nous a quittés il y a quelques années déjà, qui était jazzman, Marc Moulin. Et un jour, il dit qu'il y avait deux manières de faire de la radio. Il disait, soit on fait de la radio pour des auditeurs, soit on vend des auditeurs à des annonceurs.